On l'essaye. Le texte que je voudrais vous proposer ce matin, je sais que vous faites une série, excellente série, que je suis à distance là, sur Galates, mais on est en train, nous, à Chabot, de faire une série sur la Genèse. Je ne sais pas si je vais la finir avant que le Seigneur revienne. Je suis peut-être trop lent. En fait, je suis trop lent, mais on fait des belles découvertes à travers le livre de la Genèse. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Genèse chapitre 29, on va lire du verset 31 à 35. Genèse chapitre 29, verset 31 à 35. Pendant que vous tournez, je vais commencer à lire Genèse 29, 31 à 35. « L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. » Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. » Elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi elle l'appela Lévi. Il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Judas. Il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. On va arrêter ici. Pour optimiser le temps qu'on a, on va prier. Merci Seigneur, encore une fois, de te révéler à nous, d'avoir fait cette grâce de t'être réconcilié à nous et qu'on puisse partager ton œuvre incroyable, l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, qu'on puisse le célébrer encore ce matin. Renouvelle notre intelligence, que nos cœurs puissent recevoir agréablement ta parole pour notre instruction, pour profiter de ta grâce. On t'a pris d'envoyer des ouvriers. La moisson est grande. On l'a vu dans la présentation précédente. Et on te prie pour nos autorités qui nous permettent de vivre une vie en toute piété devant toi. Enlève les mauvais conseils et mets des gens en place qui craignent ton autorité et ta loi. Au nom de ton Fils. Amen. Donc ici, tout au long de la prédication, il y aurait peut-être trois questions qu'on pourrait se poser, qu'on cherchait à répondre. À savoir, est-ce qu'il y a des erreurs que Jacob a faites que je peux faire pour me priver de la grâce de Dieu? Comment être libéré comme Léa a été libérée malgré qu'elle tombe, qu'elle chute encore après sa délivrance? Comme le chrétien peut rechuter après sa nouvelle naissance? Peut-être pas vous autres. Moi, on dirait qu'avec le temps, ça s'accumule. Une chance que Dieu est gracieux. Quelle est l'heureuse espérance qu'il y a lorsque l'on rencontre l'époux véritable? Donc, sommairement, une mise en contexte du texte qu'on vient de lire, on pourrait l'intituler, la première portion, à savoir qu'il faut se rappeler que la frustration de Jacob va devenir, dans ce qu'on lit précédemment, la frustration de Léa. Dans les versets qu'on vient de lire, on voit comment Léa, qui a un vide existentiel, elle vit, subit un désintéressement de son époux. Elle qui est l'épouse que son mari Jacob ne voulait pas. Si vous regardez juste au chapitre 30 après, au verset 16 et 20, on voit qu'ils ne semblaient même pas vivre ensemble à proximité. T'es à voir sa rencontre en disant « Reviens vers moi avec les enfants que je t'ai donnés ». En tout cas, c'est comme ses arguments clés. Fait qu'il semblait vraiment avoir pour des gens mariés, je ne vous recommande pas ce genre d'éloignement-là. Si on vit ensemble, on s'endure un peu ensemble, mais il semblait qu'eux autres ils n'étaient même pas ensemble, dans le sens à proximité. Donc, nous lisons comment Léa cherche à combler un vide dans son cœur. Léa va tenter de combler ce vide de la même manière que Jacob a cherché à combler son vide avec Rachel. Ou encore, si on vient avant ça, le vide qu'Isaac a voulu combler en favorisant Ésaü. Parce qu'on se rappelle, Il était l'habile chasseur qui ramenait de la viande qui était succulente, qui était agréable pour la bouche de son père. Soit en servant des idoles. Celui de Léa, c'était le rêve d'un amour absolu parfait et d'une romance sans fin et convoité que Rachel et Jacob semblaient vivre, eux. Pour ma prédication, je me suis beaucoup servi du livre de M. Timothée Keller, décédé aujourd'hui. Il doit être en présence du Seigneur puis il doit avoir tellement du fun. Fait que c'est vraiment béni la grâce que Dieu a donnée à cet homme-là d'interpréter différents textes dans son livre « Les idoles du cœur ». Donc, c'est sûr que le message de ce matin, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Je pense qu'il y a déjà eu une série sur ce livre-là, « Les idoles du cœur ». Puis en plus, sûrement que vous l'avez déjà lu, mais je l'ai trouvé très intéressant à le relayer. Donc, si on revient au contexte, lors de ses premières grossesses, Léa cherche à trouver, on pourrait dire, son salut dans cette idole, celui de vivre une romance avec Jacob, ce qu'il ne lui donnait pas, plutôt au début que d'adorer Dieu et laisser Dieu combler ce vide affectif. Léa va espérer que la voie de la fécondité sera son rédempteur à sa détresse émotionnelle. Elle veut gagner l'amour de Jacob. Elle veut raviver une passion d'amour de Jacob pour sa part, alors qu'elle le voyait régulièrement, finalement, face au fait que c'était Jacob qui le vivait, mais avec Rachel, sa sœur plus jeune. Et là, on pourrait tomber, finalement, dans la réflexion suivante, à se demander, « OK, parfait, on vient de lire ce texte-là, et comment éviter de pécher comme Jacob, de manquer la cible dans son rôle de mari? » Ou, il y a une petite nuance intéressante, on pourrait se demander ce matin, comment espérer le secours du Rédempteur par excellence? Espérer dans la bénédiction issue de la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob, ce que Jacob ne pouvait pas donner par lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut facilement lire les textes dans la Genèse et dire, mais comment réussir ma vie chrétienne sans échouer, comme Jacob l'a fait dans sa vie conjugale? Comment ne pas tomber dans l'idolâtrie de la romance comme Jacob, qui va être un mauvais mari pour Léa? Qui que je dois imiter dans le texte? C'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi les bonnes actions à poser pour être meilleur, moi, comparativement à Jacob? C'est une approche, mais je deviens vraiment, avec le temps, de moins en moins confortable avec celle-là. Ce n'est pas des mauvaises questions en soi, en passant. On peut même chercher à réaliser les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour éviter de manquer la cible avec ce type de raisonnement-là dans le quotidien de nos vies. C'est vrai que nous sommes appelés à enlever, puis on le voit dans l'image, l'illustration dans le jardin, l'homme dans le jardin, on est appelé à enlever la mauvaise herbe du jardin de nos vies pour cultiver et garder ce que Dieu nous prête pour le glorifier. Mais attention d'être centré sur le fait que nous devons réussir et devenir des héros dans l'histoire de Dieu, là où Christ seul peut réussir parfaitement, là où on a échoué. Monsieur Keller, puis on remarque qu'il est très influencé par les pensées d'un ami, qu'on n'a pas côtoyé directement, mais quelqu'un qui a influencé un peu notre histoire, avec le cours d'éthique. Monsieur Keller, il est très influencé, j'ai l'impression, par l'interprétation de l'éthique chrétienne par Dietrich Bonhoeffer. M. Keller va dire, nous mettre en garde, on lit trop souvent les récits de l'Ancien Testament comme si Dieu était en haut d'une échelle morale et qui va nous dire, OK, let's go, monte, travaille fort, utilise toutes tes forces, il faut que tu performes pour être le meilleur. Il y en a qui ont échoué, mais je compte sur toi. Impressionne-moi assez, surprends-moi, rends-moi fier de la chance. Autrement dit, rends-moi fier de la chance que je te donne de te laisser une seconde chance en te sauvant. Là. Un peu comme si le Seigneur voulait essayer de faire de nous, un peu comme les coachs de hockey font, en disant, là, je t'ai recruté, OK? Ça m'a coûté cher, fait que là, sois un peu rentable. Je ne suis pas sûr que c'est le cœur de Dieu. Comme si on pouvait aborder Dieu par le mérite. Jacob a trouvé grâce aux yeux de Dieu, si on lit les écrits de l'Épître aux Hébreux. On peut juste aborder Dieu par la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas l'aborder, selon ce qu'Yvan nous avait rappelé justement un peu plus tôt, l'aborder sur mes capacités, mes réussites. Comme si finalement je pouvais l'aborder en disant, regarde, j'ai quand même réussi quelques affaires, puis Dieu dit, OK, toi, t'es pas pire. On ne peut pas l'aborder selon nos capacités à accomplir la loi. Paul est très clair là-dessus, et Christ encore plus. Non, la vie sous le soleil, à cause du péché, est comme un fil qui est tressé autour du fil de déception qui m'amène régulièrement dans le piège du péché de manquer la cible que nous vivons tous de manière universelle. Je suis capable du pire. Je ne suis pas digne de la confiance absolue, ce que Léa s'attendait auprès de Jacob. Christ seul est le héros qui aime son épouse infiniment plus que Jacob était capable d'aimer Léa. La déception de Jacob, c'est la déception du monde. Si vous lisez Genèse 29, 25, on peut interpréter que c'est comme si Jacob pouvait se dire, lorsqu'il a rencontré Rachel, la plus jeune, « Quand je vais avoir consommé mon mariage avec Rachel, là, enfin, je vais aller mieux. Là, enfin, mes soucis vont être réglés. Je n'aurai plus de problème. Je vais être parfait parce que je vais être dans les meilleures conditions gagnantes si j'ai ça, ça, ça. » Le principe de l'idolâtrie est régulièrement teinté de ce problème-là. Mais Jacob, il s'est réveillé le matin de ses noces à côté de qui? Léa. Voici, c'est génial de M. Keller, voici une miniature déception que nous vivons tous depuis notre exil du Jardin d'Éden. Ce n'est pas avec des meilleures conditions que je vais être parfait, avec un bonheur parfait, ou que je vais être une bonne personne qui ne fera plus jamais de gaffe. C'est une résurrection du cœur qui doit me transformer radicalement. Pas pour faire de moi justement une personne parfaite par mes capacités, mais quelqu'un que Dieu déclare juste. Même si à chaque matin je me dis, Dieu, je me regarde dans le miroir, c'est ça qui est juste. Tu l'acceptes par la foi, ben, il n'y a pas d'autre moyen. Je veux dire, je ne peux pas aborder ça autrement. C'est par la foi en Jésus-Christ, encore une fois. C'est avec une justice étrangère que je reflète imparfaitement la perfection de Dieu. Peu importe l'objet de nos espérances, on veut toujours se coucher avec Rachel, mais c'est Léa que l'on retrouve au matin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'idole de l'amour qui nous sauve, nous donne un sens à notre existence, ne peut pas perdurer. C'est intéressant, notre société occidentale se vante à s'être débarrassée de Dieu. Avouez que ça a tout réglé les problèmes, non? C'est une question piège, je sais qu'on est à l'église. Avouez que c'est drôle comment on a été arrogant, on a nargué Dieu en disant « Si on se débarrasse de toi, je te promets, on va aller tellement mieux. » Ah oui? Les problèmes suicidaires, l'anxiété dans le tapis, ça a tout réglé ça maintenant qu'on n'a plus Dieu. C'est intéressant. Pas sûr. Vraiment pas sûr. Parce que si on analyse notre mentalité occidentale, si on dit maintenant que tout est issu du hasard, tout ce que je vis, c'est juste une combinaison de « on a lancé des dés, voir quelle combinaison tu vas donner ». Remarquez comment maintenant la société va se rattacher à une forme de sens de vie suprême, un but suprême, autre que Dieu. Comme si notre cœur avait finalement un trou qui avait besoin d'être comblé par Dieu, mais nous, par nos capacités humaines, on veut le combler par d'autres choses. Parce que les gens vont vous parler, écoutez les films, écoutez les séries, les chansons. C'est quoi souvent qui revient souvent? C'est quoi la thématique qui revient souvent dans les chansons à radio? L'amour. L'amour parfait. L'amour idéal. Ah, il m'a encore laissé tomber, mais le prochain amour, ça va être excellent. On l'idéalise beaucoup, le fait, puis au nom de dire « je vais rencontrer l'âme sœur, enfin mon destin va s'accomplir ». Je ne suis pas certain. Et c'est pareil quand on nous promet que ça va être avec l'idole de l'argent que tout va être réglé, la politique, l'écologie, l'éducation, la santé, la recherche. Et ça, autrement dit, c'est toutes des bonnes choses. Mais si on les fait devant Dieu et avec Dieu. Parce que je vous dirais que même un idole, Tana, La recherche de l'admiration des chrétiens aussi. Dieu, tu n'es pas suffisant. Si j'ai l'approbation des gens de mon Église, hey, là, ma vie va bien aller. L'admiration des gens à mon travail, le fait d'avoir un meilleur poste, d'avoir des enfants qui ne font jamais d'erreur, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant. Quand on est face à nous-mêmes, là, on doit se l'avouer, on est souvent paniqué parce que ça ne fonctionne pas. Il faut apprendre à comprendre notre cœur, M. C.S. Lewis va le dire dans Le fondement du christianisme. Il l'explique, là, je paraphrase, mais il dit « Il faut comprendre que notre cœur a été défiguré par le péché depuis la chute. Fait que tout ce que nous pouvons posséder ici-bas, avez-vous remarqué que ça ne tient jamais totalement ses promesses? Si vous faites un voyage, puis vous faites des randonnées fantastiques dans des pays étrangers, puis c'est super beau, ou quand on prend plein de photos pour ne pas oublier le sentiment du bonheur parfait et très grand, tout ça, ça ne comble jamais complètement. C'est comme si, pour beaucoup de gens, on vit entre deux voyages, deux vacances. T'sais, c'est comme si le reste du temps, j'attends mon voyage. C'était tellement beau, puis là, ils te remontent les photos, regarde comment c'était beau. Est-ce que c'était complet? Ah, écoute, ça va être complet quand je vais le revivre. Hein? On cherche à combler ce trou. Puis là, c'est Lewis, c'est génial. Il ne va pas parler justement de dire, c'est pas les voyages ratés avec des, finalement, où est-ce qu'il y a une météo exécrable, épouvantable, qui sont des fois justement, c'était ces moments-là qu'on se dit qu'on n'a pas été comblé parfaitement. Mais ça va être des fois des beaux voyages. On va avoir visité des endroits magnifiques. On va avoir dormi dans des hôtels avec une très belle décoration. Mais il reste une insatisfaction. Nos rêves s'évanouissent quand la réalité, la routine du quotidien nous frappe. Et c'est ça depuis la chute. La création souffre des conséquences du péché d'Adam. Et si on était fait pour un monde éternel et surnaturel? Fait que ça, c'est le contexte. Bon, il me reste juste ça de temps. OK. Fait qu'on va revenir au texte, ça va être plus sage. Au verset 31, « L'Éternel vit que Léa était mal aimée. » Ici, c'est intéressant parce que dans le commentaire de Jean Calvin sur la Genèse, il fait mention que des fois, les gens qui l'ont traduit vont dire « L'Éternel vit que Léa était haïe. » Peut-être que vous avez ça dans votre version. Mais Léa a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est important de se rappeler que l'auteur inspiré de Dieu met l'emphase sur le fait que nous n'aimons que le fait de ne pas aimer une personne envers qui nous établissons une alliance. Une personne qu'on devait prendre soin, si on ne l'aime pas, c'est de l'haïr. C'est ça que Jean Calvin rappelle. Fait que le fait d'haïr, c'est pas juste quand je me dis que j'ai envie de frapper cette personne-là. Le fait d'haïr, c'est de ne pas assez aimer, de ne pas assez prendre soin, de ne pas assez valoriser. Un époux qui évite du temps de qualité avec son épouse, c'est haïr. Un père qui évite de passer du temps avec ses enfants, un temps opportun, pour éduquer ses enfants en disant « Ah, je vais me cacher derrière des études bibliques. » Ça, c'est ma petite tendance, là, je le confesse. Bien, c'est haïr. Je fais du porte-à-porte pour aller évangéliser, pour éviter de prier, de pleurer avec des frères dans mon assemblée. C'est échouer, c'est haïr. Léa va enfanter, mais Rachel, elle va demeurer stérile. Au verset 32, ce qu'on peut en comprendre, c'est que Léa s'attend d'être aimée, valorisée par son mari, après avoir donné naissance à Ruben et aux deux autres fils. Pour Jacob, comme pour Isaac, comme pour Abraham et pour la population de l'Antiquité en général, la postérité, le fait d'avoir une descendance, d'engendrer, surtout des garçons, ça amenait à pouvoir engendrer une tribu. C'était d'une très grande importance à l'époque. C'est le comment nous allons marquer la civilisation à venir. C'est de marquer l'histoire, un peu comme un film, ça fait quand même un certain temps, mais le film 3 le démontre. Là, comment on veut marquer l'histoire pour avoir une forme de marque éternelle auprès des civilisations? Bien, c'est souvent en marquant l'histoire, soit par des prouesses ou par une descendance qui va engendrer des peuples et des tribus. L'aspect pratique là-dedans, au nom que nous voulons réaliser une promesse que Dieu nous a faite, au nom qu'il est légitime que Léa recherche l'affection de son mari et de voir une sorte d'accomplissement, pardon, se réaliser dans la postérité de Léa, nous aussi, il est possible que nous provoquions des fois des tensions sous le soleil, ce qui est vanité selon Ecclésiaste. Fait que quand on lit le texte, c'est important de se rappeler que les tribus d'Israël, dans leur histoire, sont invitées à fuir les jalousies et les tensions familiales intertribus, alors qu'ils étaient très propices à ça. On comprend un peu plus, c'est assez normal qu'entre frères, puis ça aide aussi à comprendre quand on va voir qu'avec Joseph, la tension n'était pas évidente parce que les mères, la dynamique auprès des mères, Jacob a échoué dans son rôle d'être un leader à l'image de Dieu. Donc, Jacob accumule le mal de l'idolâtrie d'être chef de famille par-dessus le mal de la polygamie. Vous vous souvenez comment est-ce que d'une manière rusée, il a essayé de dire « Hey, Dieu a donné un oracle à ma mère. Je vais essayer d'aider Dieu à faire accomplir ce qu'il a dit. Mon père voit plus clair, il est dépassé, il aime bien trop la viande qu'Ésaü lui donne. Ça devrait être moi qui devrais finalement avoir un lead. » À être supérieur à mon frère, mais là, c'est pas ça qui est en train de se passer. Donc, d'une manière rusée, il va vouloir avoir les bénédictions de son père, il va vouloir prendre le droit d'aînesse. Fait que finalement, il va se déguiser, il va se servir d'Ésaü qui, en passant, hein, il était pas en tout en train de mourir de faim. Là. Dans le contexte où est-ce qu'il était, très, très riche, il fait une petite crisette de caprice parce qu'il a pas chassé... La viande extraordinaire d'éléphant, il va être obligé de manger du bœuf. On s'entend qu'il n'était pas à l'article de la mort. Ben, bref, ça, on va y revenir. Mais là, Jacob commet cette faute-là de vouloir usurper quelque chose que Dieu avait promis à sa mère, mais par ses capacités, par des capacités croches, avec la ruse puis le mensonge, par-dessus le mal de la polygamie. Il transgresse l'institution du mariage, comme Jean Calvin le rappelle, instauré par l'Éternel dans le jardin. Et il va prendre les servantes de ses épouses. Il va mettre de l'huile sur le feu au lieu de régler le problème de la chicane de la famille en faisant ça. Il y a un danger de ne pas crier à Dieu, notre besoin d'être secouru, de demander pardon, de se repentir et de mettre en pratique ses préceptes, ses commandements. C'est comme si en faisant le mal, le chaos prend de l'expansion dans la famille de Jacob. Pourtant, Paul le dit, Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et ça, c'est à mettre en pratique, même dans notre vie chrétienne. Moi, en tout cas, le premier. Parce que des fois, je m'amuse, comme ça, à trouver ma valorité, ma manière de me valoriser, une manière un peu tout croche. Mais des fois, je m'amuse à écouter des prédications de pasteurs que je fais « Oh, oh, oh! » Oh, ça, c'est peut-être pas biblique. Puis, me sens, c'est rassurant. Hein? Tu écoutes ça en disant « OK, je me qualifie, je le disqualifie, lui. » Tu sais, en les écoutant en disant « Ah, t'aurais été peut-être un très bon humoriste, un bon coach motivationnel, mais je suis désolé, ce n'était pas biblique. » Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que mon option, ça va être de faire de la médisance, de salir son nom, ou t'intercèdes en disant « Dieu, c'est quoi la meilleure manière d'aborder la situation d'une manière sage? Je ne suis peut-être pas la bonne personne, ou si tu me demandes d'aborder cette problématique-là, comment je vais aborder la personne comme j'aimerais être abordée? » Fait que rajouter péché par-dessus péché, ce n'est pas ce que Dieu prescrit. Puis en passant, c'est drôle parce que dans ce phénomène-là, vous remarquez comment est-ce qu'on aborde Dieu puis qu'on dit à Dieu, « Dieu, sois gracieux envers moi. Donne-moi pas ce que je mérite. Mais pour les autres, Dieu, il faut que tu disciplines. » Là, Dieu, t'es mieux de leur faire passer un mauvais quart d'heure, c'est pas correct ce qu'ils ont fait. Ils m'ont blessé puis c'est méchant. T'sais, on est de même. Une chance que Dieu n'est pas comme nous. Et bref, au verset 33, rappelez-vous, ici, ce qu'on lit, c'est intéressant de faire des parallèles qu'avec Agar, plutôt dans la Genèse, elle pleure et elle est désemparée, la servante de Sarah, l'épouse d'Abraham. Lorsqu'elle vit une période, un peu plus tôt dans la Genèse qu'on lit, qu'elle est rejetée par Abraham et sa détresse est entendue de l'Éternel. Elle ne voulait pas voir son fils Ismaël mourir devant ses yeux, donc comme l'Éternel avait entendu Agar, là, ici, au verset 33, on voit que Léa a été entendue, l'épouse rejetée de Jacob. L'Éternel nous entend dans nos difficultés, nos pleurs. Il entend ceux qui sont méprisés. Ayons confiance en lui, il est plus pour nous que nous le pensons. Il a fait grâce à une femme négligée, appauvrie affectivement par la romance de sa sœur et de son mari. Il l'a entendue. sa détresse n'a pas limité Dieu à l'entendre et à agir. Au verset 35, nous observons que Léa va donner naissance à Lévi, l'ancêtre des sacrificateurs lévitiques de la lignée d'Aaron, et à Juda, l'ancêtre du roi Davidique et l'ancêtre du véritable roi d'Israël, Jésus-Christ. L'accomplissement de la promesse qu'il y aurait une véritable descendance d'Abraham qui va bénir la terre entière, qui va écraser la tête de l'ennemi, le serpent ancien, au lieu du crâne, en étant blessé mortellement à la croix. Vraiment intéressant. Parce que quand on lit, finalement, en tout, là, au chapitre 29 et 30, et au chapitre 35, en tout, Léa va donner 7 garçons à Jacob comme descendant masculin. Donc, c'est la moitié des ancêtres des 12 tribus d'Israël. C'est quand même pas rien. Donc, Léa est à risque de vouloir chercher un bonheur, un sentiment de devoir accompli par les valeurs familiales traditionnelles de l'époque. On voit que Léa espère que sa vie malheureuse va changer quand elle va donner des fils à Jacob. Elle donne des noms à ses fils, comme en faisant un peu des jeux de mots, nous amenant à croire que Jacob, épris d'amour pour Rachel, ne vivra pas l'amour romantique avec Léa malgré tout. Et c'est là, puis ça aussi, ça se continue dans le reste de la Genèse qu'on lit. Léa reste dans l'ombre de sa sœur. Donc, chaque naissance, c'est un peu comme si c'était, ça laissait une marque. C'est comme si c'était un couteau qui tournait dans la plaie de sa douleur intérieure à Léa, dans son âme. Léa veut voir sa vie transformée, la flamme de son couple, on pourrait dire s'allumer, son mariage à chaque naissance de ses fils, mais elle s'enfonce dans sa solitude. Mais ce qui est béni au quatrième enfant, c'est comme si Léa faisait une découverte, comme l'Église fait la découverte du véritable époux. Au chapitre 29, verset 31, c'est intéressant de se rappeler que selon les commentaires qu'on lit dans le texte, Léa, comment elle est décrite, c'est avec un peu dépendamment de vos versions, des versions que vous avez, c'est avec un regard fragile ou faible. Fait, est-ce que c'est toute son apparence physique en général, si on étudie l'hébreu du texte, qui était plus faible, avait l'air plus chétive? Mais d'autres vont dire que c'est peut-être qu'au niveau de ses yeux, qu'elle avait comme une déformation qui faisait qu'elle était moins agréable à regarder, elle, en contraste avec Rachel, qui semblait être quelqu'un de... une très belle femme, autrement dit, Rachel. Mais c'est intéressant parce que, fait que ça, c'est pour le contexte, mais au chapitre 29, c'est trippant de voir que Léa, quand elle en appelle à l'Éternel, elle utilise le mot « Yahvé », puis pas « Elohim ». Elohim, c'est un terme général que beaucoup d'autres populations, d'autres peuples, d'autres tribus pouvaient utiliser pour parler d'un être supérieur ou des divinités. Yahvé, c'est le même terme qu'utilise Abraham et Moïse quand on lit plus tard dans Exode. C'est donc Yahvé qui s'est engagé à donner à Abraham une descendance. On peut voir donc dans la déclaration de Léa qu'elle tend la main à la grâce de Dieu en vivant une tempête d'émotions, de confusion et d'une tristesse qui l'envahit. Ça devait tellement être frustrant pour elle. Elle est noyée dans le tourment de ne pas être aimée de son époux. La découverte de Léa, qui démontre qu'elle a goûté à une liberté de l'Éternel, est lorsqu'elle a eu son quatrième fils, Juda. « Je louerai l'Éternel » ou « Il loue l'Éternel ». Contrairement à ses autres fils, elle ne fait pas de référence à ses fils pouvant lui offrir le bonheur qu'elle espérait ou en faisant référence que son mari va se réattacher à elle avec un amour romantique. C'est comme si elle cherchait en ayant des fils l'approbation qu'elle rêvait de recevoir de Jacob, l'avoir enfin près d'elle, avoir une proximité intime avec lui, mais il lui refuse toujours. Et c'est fou ça, parce que quand on étudie l'ensemble du récit, Laban et Jacob ont ruiné la vie de Léa. C'est pas peu dire. Mais elle passe à travers en étant rassurée, en espérant et en louant l'Éternel, plus que sa famille qui ne lui donne que du chagrin. Jusqu'à ce qu'elle voie en tant que mère que de louer Dieu, de le glorifier et de s'émerveiller de ses attributs est plus rassurant que l'amour romantique que son époux Jacob donne à sa sœur. Le véritable époux, ce que l'Éternel fait à Léa, ce qu'il fait pour elle, il le fait aussi pour son épouse, l'Église, et même d'une manière parfaite. C'est intéressant quand on lit Genèse 49 de voir que de la tribu de Judas, il y a beaucoup de bénédictions. C'est de Judas, son fils, son quatrième fils, qui va sortir ce qu'on utilise comme expression en parlant des Juifs, finalement les gens issus de la tribu de Judas. De Judas va venir finalement le véritable roi, le règne du roi messianique des Juifs. L'expression que vous avez peut-être déjà entendue, le lion de Judas. Fait que Dieu lui fait grâce à travers sa louange. Parce que quand on lit dans Genèse 49, on voit des symboles utilisés faisant référence à la royauté, lion, emblème de royauté, le sceptre. C'est de Judas que notre Messie est humainement issu. Il est l'envoyé. Mais Dieu s'est servi de Léa. Pas de Rachel, mais dans le sens qu'il se sert de qui il veut. Là. Mais comprenez bien le contraste, il est hyper intéressant. M. Keller rappelle qu'il y a un parallèle à faire entre Marie, la mère de Jésus. Elle est rejetée et méprisée parce qu'elle est enceinte sans être mariée. Vous vous en rappelez? Léa, elle aussi, elle est méprisée et rejetée de son époux, méprisée à cause de son apparence. Est-ce qu'on peut aller aussi loin que ça que de dire « Jésus n'est pas venu dans une famille prestigieuse, admirée. Il n'est pas entré dans le monde par une Rachel dans un palais en or que tout le monde aurait rêvé d'avoir. » Mais il est venu par une Léa, une délaissée, une dévalorisée. Jésus s'est plu à prendre des choses méprisées de ce monde et à leur donner une valeur par grâce pour confondre les sages. Le message de la grâce, Jésus est venu non pour les désirables, mais les gens comme moi, les sans-époux, les rejetés, il est le père des orphelins. Le contraste est trop beau. Je vais essayer de synthétiser le plus possible, mais juste l'image. Dans Jean 4, Jésus rencontre la Samaritaine proche du puits de Jacob. Je n'ai pas eu le temps de tout étudier le texte, mais je ne suis pas sûr si c'est le même puits que Jacob a rencontré Rachel, mais il y a un puits. L'illustration peut être très forte. Jésus rencontre une femme rejetée et méprisée par sa communauté. Elle va chercher de l'eau sur l'heure du midi parce que justement, il fait très chaud. Puis, il va l'aborder sur l'aspect de sa vie conjugale en lui disant, « Oui, tu as échoué, tu as plusieurs maris, tu fais bien de le dire. » Mais il ne va pas la rejeter. Il va lui parler d'une eau vive que si on la boit, on n'aura plus soif. Il parle des adorateurs en esprit, en vérité, que ce n'est pas dans un lieu spécifique, tel comme un sugarisme, si tu les Juifs, ils sont bien niaiseux là-dessus. C'est en esprit, en vérité, que c'est par la foi que vous serez sauvés et que vous allez adorer véritablement. Il dit, espérez en moi. Il ne l'a pas rejeté. Puis elle, à part heureuse, en disant, il m'a tout dit. Il n'a pas dit que tu étais une personne parfaite, tellement admirable en toi-même. Elle dit, il m'a tout dit, puis ce n'était pas glorieux. Là. Jacob, lui, quand il a rencontré Rachel, il fait l'espèce de gros gorille qui se tape sur le chest. Tu sais, les culturistes, je ne vais pas généraliser tout le culturisme, mais... Remarquez le détail, il va soulever une pierre qui était sur le puits tout seul. Les commentaires disent normalement, tu étais une coupe 3-4 pour enlever les pierres qu'il y avait sur les puits parce qu'avec le vent, ça faisait de la saleté dans cette eau potable-là. C'était déjà rare l'eau potable, fait qu'en tout cas, il fallait la protéger. Il fait ça tout seul, il voit Léa, il veut faire un peu son pain, son goré pour dire « Regarde, je t'impressionne-tu? » Il voyait plus clair avec Rachel. Hey, je veux dire, quand tu es prêt à travailler 7 ans de temps, ce qui était 4 fois, un peu plus que 4 fois le salaire moyen pour payer une dot, le gars, c'était pas juste un prince romantique. Il était un peu déconnecté de Rachel. Il la convoitait d'une manière déséquilibrée. Et Jésus, lui, il met en lumière qu'il est le seul à aimer véritablement. Il est le seul à réussir lorsqu'on a échoué en amour. Le contraste est tellement trop frappant. Jésus est venu par la mal-aimée Léa, mère de Judas, pour dire « Je suis venu sauver par grâce. Je suis venu pardonner ce qui est impardonnable. Trouver les perdus pour les garder près de moi. Les faibles et les rejetés vont devancer les principaux sacrificateurs et des anciens, les chefs religieux, là, les gens qui étaient très valorisés socialement. » Il dit « Vous allez être devancés par les gens de mauvaise vie puis les prostituées. » Imaginez le Seigneur dans son ministère, comment ça devait être particulier, qui rencontre des femmes régulièrement abusées, qui supportaient régulièrement des regards pervers. Et le Seigneur les regardait en leur donnant une dignité, une valeur. « Je suis prêt à t'aimer à un point tel que je vais mourir pour toi. » Puis elle dit, parce que je ne suis pas aimable. Oui, c'est ça que je suis venu chercher. Fait que le Seigneur se promène avec nous. C'est comme on dit un peu l'expression bras dessus, bras dessous. Puis nous autres, on dit, Seigneur, c'est parce que je ne suis pas sortable. C'est le but de la loi en passant. Vous l'étudiez avec Galates. Le but de la loi, le pédagogue vers Christ, c'est le but de la loi de nous dire, t'es un, on peut le dire ici, pourri. Ça fait dur ton affaire. Fait que là, on dit, Seigneur, sors-moi pas de même, ça fait dur. Puis Seigneur, oui, oui, va raconter au monde comment ce qui fait ma gloire, c'est être bon à ce point-là, de t'avoir aimé toi. Mais là, je vais-tu leur dire des fois les péchés que j'ai faits? Hey, j'espère. Et c'est ça l'Église. On devrait être en communion ensemble pour dire, regarde, je vais te montrer comment j'ai échoué ma vie. Puis le Seigneur, bien, le Seigneur vient rencontrer autant les époux mariés que les célibataires. On a besoin d'entendre qu'il a payé notre dette à la croix. Il est l'époux parfait qui s'est désavantagé pour nous aimer. Il s'est dépouillé pour montrer qu'il n'est pas venu s'associer à l'élite humaine, mais à ce qui est perdu, sans espérance en elle-même. Juste l'exemple, comment il est venu quand on lit Ésaïe 53, verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait lui aucun cas. » Fait que c'est le but de l'évangélisation. Qu'on se dise, « Moi, mais Seigneur, si tu as sauvé ce gars-là, si tu as décidé d'accepter ce gars-là, c'est parce que ça fait dur sa vie, bien, c'est nous autres. Sinon, expliquez-moi la grâce autrement. » Je vais vous donner un exemple comment Dieu désamorce, puis je sais, il faut que je finisse là-dessus. Parce que Dieu est bon, parce que des fois, on comprend mal la grâce, puis ça devient une grâce bon marché, puis on pense que ça ne va pas changer nos vies, ça ne va pas changer nos actions. Dans quoi qu'on va se discipliner, dans notre piété de vie, on pense que ça ne fera pas ça. Au contraire, mais c'est juste que Dieu œuvre pas d'une manière légaliste, qu'on peut l'aborder sur le mérite, mais il œuvre dans nos vies en changeant des motivations de cœur. Je vais vous donner un exemple bien humiliant, là. Moi, à mon mariage, okay, parce que l'espérance de Léa, c'est qu'elle a fixé les yeux quand elle a eu Judas, ses regards sont tournés sur ce qui était admiratif, l'éternel Dieu qui peut combler son vide. Et c'est ça à laquelle on est appelé à faire. Moi, dans mon mariage, on s'est mariés et un année, je me suis dit, « Oh, il y a beaucoup de choses à changer dans la vie de mon épouse Isamaï. Il va falloir qu'elle fasse attention à comment elle parle parce qu'il y a des choses qu'elle dit, je ne suis pas tout à fait d'accord, sa posture. Honnêtement, j'étais gossant et obsessif. Là, ça, je me calme moi-même quand j'y repense, mais j'étais très désagréable. À dire, va falloir que tu changes de telle manière. Puis en plus, je christianisais ça en disant, ouais, mais le chrétien, il faut qu'il change. Puis tu sais, j'utilisais des versets bibliques, là, femme soumise à ton mari. Tu es tout pour être un tyran, là. J'avais pas lu le reste d'Éphésiens 5, hein. Mais bref, là, je disais, ouais, il va falloir qu'elle change. Et ce qui était étonnant à un moment donné, c'est que le Seigneur me saisit, m'a brassé pas mal en disant, OK, il va falloir qu'on règle quelque chose. Se rends-tu compte que ce que tu veux comme mariage, c'est avoir une épouse comme toi, mais version cheveux longs? Je dis, ben voyons donc, Seigneur, c'est pas très chrétien. Tu sais, je veux voir que ça me ressemblerait. Moi, je dis, non, je te dis, tu veux que Lisa Marie soit comme toi. Et gloire à Dieu, elle est pas comme moi. Fait qu'avec le temps, ce qui m'agressait aujourd'hui, ça m'édifie. Elle est vraiment pas comme moi. C'est vraiment bénissant d'avoir, tu sais, entre autres, une épouse qui a le réflexe de prier dans le temps de l'adversité, qui est patiente en disant « Attends, va t'embarquer dans un projet trop intense, on va voir comment ça se passe. » Puis tu sais, d'être alerte à voir les bontés de Dieu qui se renouvellent à chaque matin. Moi, j'ai à apprendre de ça. Elle m'apprend les attributs de Dieu, le caractère de Dieu que moi seul, je ne voyais pas. Fait que, puis c'est intéressant, on dirait que Dieu, dans son humour, des fois, permet que quand on retourne dans le Bas-Saint-Laurent, je recroise des filles avec qui j'ai eu un petit kick, là, j'ai pas sorti avec eux autres, mais je dis « Ah, j'aimerais ça sortir avec elle. » Puis tu rêves de « Ah, ça serait donc beau être avec elle. » Puis là, je leur parle, je fais, hey, c'est des têtes à claque gossantes. Tu sais, tes écoutes, je fais, ah, c'est gossant. T'es-tu une perfectionniste sur des affaires secondaires? T'es donc bien anxieux sur des affaires. Puis le Seigneur dit, hey, ça, c'est comme toi. Hey, non, Seigneur, je n'étais pas si pire que ça. Non, t'es pire. Tu sais, le Seigneur s'amuse en disant, tu vois-tu comment ça aurait été extrêmement douloureux pour toi et souffrant que j'aie dit oui automatique à ta prière? C'est le fun que des fois, Dieu ne répond pas à notre manière. Donc, C'est comme ça qu'il renouvelle notre intelligence. Et rappelons-nous, Éphésiens 5, 25, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par la parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante, de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. » Écoutez, c'est extrêmement déstabilisant, surtout que quand on étudie Dieu, vous le savez, on a fait l'étude la 1689, notre confession de foi, puis ce qu'on apprend avec un Dieu trinitaire, c'est que puisqu'il est trinitaire relationnel, son amour était parfait, donc il a décidé de sauver des gens comme moi, comme nous, mais il n'y en avait pas de besoin. Dieu n'était pas indépendant affectif, c'était Don Carson qui disait ça dans une de ses présentations solo. Dieu n'est pas là la semaine en nous regardant en disant « Ah, oh, que la semaine est longue, lundi, mardi, c'est donc pénible. Ah, oh, mercredi, des fois, il y a des soirées de prière. Mais dimanche, ils vont enfin me louer. T'es, le temps est tellement long, j'ai tellement hâte de les entendre me louer. Enfin, enfin, dimanche arrive. » Le Seigneur, si on l'étudie bien, on étudie bien qui il est par sa parole, il n'y a pas de besoin, hein? Fait que c'est librement. Fait que vous pouvez facilement comprendre le verset biblique qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses un tel cas? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui à ce point-là? Je n'ai pas avantagé Dieu, moi, dans cette histoire-là. Tout ce que je lui ai donné qu'il n'avait pas, c'était mon péché. Je n'ai pas donné des belles œuvres, j'ai besoin de lui pour les faire. Même si c'est moi, ce n'est pas en psychose, ce n'est pas en délirium que je commets ces actes. C'est vraiment moi, mais je ne peux pas les faire de manière indépendante à lui. » Est-ce que vous vous souvenez de Osée, le livre d'Osée? Un homme qui va rechercher son épouse, qui retourne auprès de ses amants, qui la maltraite, qui abuse d'elle, il retourne la prendre. Ça, c'est Christ avec son Église. Ça, c'est Christ avec son Église, il faut se le dire. Régulièrement, on se dit, ça irait vraiment mieux dans notre Église si on avait plus de stratégie marketing, de business. Ne dépendons pas de Dieu. Tu sais, c'est béni, vous l'expérimentez avec soirée de prière. C'est pas pour entêter Dieu que vous faites ça. Vous dites un peu comme Pierre l'avait affirmé, « À qui d'autre tu veux qu'on aille? » C'est ça la prière. Toi seul, les paroles de la vie éternelle, on dépend de toi. Fait que Dieu prend quelqu'un qui régulièrement se plante et il n'a pas besoin finalement de notre réussite, même malgré nos échecs. Il arrive quand même à ce que son plan puisse s'accomplir. Puis là, je manque de temps. Ce qui aurait été béni, peut-être à poursuivre une autre fois, mais souvenez-vous du principe, en plus vous l'avez étudié dans 1 Jean, qui dit que c'est Dieu qui est amour. On l'a vu dans le cours d'éthique de Bonhoeffer que pasteur Jeff Lorrain a donné. On met donc bien l'emphase sur le côté sentimental. C'est comme si Dieu, on l'a trop interprété en disant « Hey, l'amour, c'est tellement quelque chose de bon que même Dieu veut s'associer à ça. » Mais quand on lit 1 Corinthiens 13, on pourrait prophétiser. On pourrait faire plein d'actions de charité, ce qui est une bonne affaire en passant. Vous pourriez même faire des actions de piété chrétienne, mais sans amour. Et donc, sans Dieu, et ce n'est pas l'amour. Bonhoeffer est génial là-dessus, il dit, essayez pas, si vous n'êtes pas réconcilié à Dieu, de définir l'amour autrement qu'avec Dieu. Criez-lui à l'aide. Lui seul peut définir c'est quoi l'amour. L'amour souffrant jusqu'à ce que Christ aille à la croix. L'amour qui se donne. L'amour qui pardonne, qui n'est pas envieux. C'est Christ à la croix qui nous amène à une nouvelle sorte de vie, et c'est sûr, ça change nos vies. C'est inévitable. Fait que finalement, j'en ai parlé hein, d'un genre. Je m'en excuse, mais c'est fascinant parce que c'est l'homme réconcilié. C'est l'homme qui goûte à l'élection de Dieu qui se matérialise finalement dans sa vie. L'élection de Dieu de toute éternité, c'est quelqu'un connu de Dieu qui connaît l'amour. Hey, vous êtes tombés arrogants, les chrétiens, vous êtes en train de dire que vous connaissez l'amour plus que les autres. Oui, par grâce. Oui, parce que c'est un amour étranger. Oui, parce que ça ne vient pas de ce monde. C'est un amour incompréhensible. Mais comme dans l'histoire d'Osée, il vient nous rechercher en disant, « Pourquoi tu t'es encore confié en autre chose qu'en moi? » C'est extrêmement encourageant parce que ça veut donc dire aussi que quand je pense avoir domestiqué Dieu, quand je pense pouvoir utiliser on appelle ça des fois le chantage émotif pour dire, « Dieu, tu n'auras pas le choix de me donner. Avoue, j'ai eu une belle semaine. Puis tu devrais maudire telle personne. Faudrait la corriger un peu plus, là, pas être trop gracieux avec elle. » On se rappelle Romains 8, 38. car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les anges, ni les choses présentes, pardon, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne négligeons pas un si grand salut. Ne négligeons pas un si grand salut. Je m'en excuse en termes de temps, on va conclure. Je trouve que la révélation que Jean a eue dans Apocalypse 19 le résume bien, ce qui était peut-être plus l'aspect central du message ce matin. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exaltons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. La fiancée s'est préparée. Et il lui a donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Il l'a revêtu de sa justice. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste, les paroles authentiques de Dieu. L'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Vous pouvez goûter à toutes sortes de semblants d'amour, mais sans Christ, on ne peut pas vivre la délivrance comme Léa a vécu. Puis après ça, même si elle tombe après, puis qu'elle dit, je vais reprendre aussi ma servante pour trouver mon mari, c'est nous autres, même si on échoue après. Pêcherions-nous donc avec la grâce surabonde? Absolument pas. Mais Paul veut nous amener à dire, désespère tellement toi-même que tu vas peut-être tomber dans ce réflexe-là de la grâce bon marché. Mais absolument pas, retourne pas au vomi. Tu es un chien qui retourne à son vomi, c'est pas très cute. Là. Continuons de dépendre de sa parole qui nous rappelle régulièrement que Dieu a aimé ce qui n'était pas aimable. Amen. Amen. Seigneur, on te prie pour que l'instruction de ce matin puisse prendre racine dans nos cœurs et qu'on puisse le mettre en pratique. On a goûté à l'amour inconditionnel et on est appelé à aimer aussi à ton image. On ne peut pas aimer sans toi. Il faut qu'on soit réconciliés. Il ne faut plus vivre la séparation issue de la chute. Et ça, c'est par la foi que tu nous donnes, qu'on peut être réconciliés. Merci de nous donner toutes sortes de grâces pour profiter de ta grâce et de ton amour, de nous avoir ramenés à toi. Nous les délaisser trop souvent, comme Léa. Nous, les Jacob, même quand on va malheureusement manquer la cime, toi, tu nous réapprends à vivre une vie où ce qu'on va adorer le Créateur plutôt que la créature. Amen. Merci pour votre attention. Désolé pour le temps. Bonne semaine.